France Inter.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James, comment il a vécu, comment il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore. Alors écoutez aujourd'hui dans Affaires Sensibles l'histoire de Bonnie and Clyde. Ses paroles, vous les connaissez, ce sont celles de la chanson de Gainsbourg avec Brigitte Bardot. Mais savez-vous qui les a écrites? Ce n'est ni Gainsbourg, ni Bardot. C'est Bonnie elle-même. Oui, c'est elle qui vous parle à travers cette chanson du fond de sa tombe. Ce poème, elle l'a écrit en cavale, peu de temps avant de mourir. Et elle l'a envoyé à la presse avec comme mention à publier le jour de notre enterrement. Bonnie Parker voulait devenir une légende, réussite totale sur ce point. Transformée par Hollywood, racontée dans des romans, chantée, Bonnie Parker et Clyde Barrow sont devenus des légendes. Ces deux bandits, braqueurs, tueurs, ont été mythifiés. Il se dit beaucoup de choses sur eux, dont beaucoup de mensonges. Si bien qu'il n'est pas simple de raconter leur véritable histoire, celle d'individus assez pathétiques en vérité, petits gangsters devenus tueurs à sang-froid. Deux produits de leur époque et du pays dans lequel ils ont vécu, les États-Unis des années 30, des misères de la Grande Dépression, de la Prohibition d'Al Capone et de John Dillinger, le pays d'Hollywood dans lequel les fictions s'inspirent de la vraie vie autant que la vraie vie s'inspire des fictions. Notre invité aujourd'hui, Didier Combeau, spécialiste des États-Unis, auteur entre autres de Police américaine, paru chez Gallimard en 2018. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Romain Weber, coordination Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Donnant, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Il faut sortir un peu du quartier de West Dallas pour trouver un endroit où acheter la presse en ce mois de mars 1930. Parce que West Dallas, on l'appelle l'antichambre du diable. Et on y trouve des marécages puants, des maisons en tôle, des cabanes dans la boue, mais sûrement pas de kiosques à journaux. Dans cette périphérie s'entassent les paysans du Texas qui ont fait faillite. Quelques mois plus tôt, le 24 octobre 1929, l'agitation à la bourse de New York a plongé le pays et bientôt le monde dans une misère que les Américains pensaient révolue. Sortir de la Première Guerre mondiale a été douloureux, mais le pays s'est reconstruit. Les usines et la consommation sont reparties et les États-Unis ont connu, à la fin des années 20, une formidable prospérité. L'Américain moyen pouvait s'acheter une Ford, une maison, élever ses enfants dans la tranquillité. Mais le krach boursier efface ces années en quelques heures, créant 13 millions de chômeurs dans un pays de 120 millions d'habitants. Les banques, qui juraient être les piliers du rêve américain, plongent le pays dans une grande dépression. Et pour certains, c'est vive la crise. Oui, en ce mois de mars 1930, le 24 précisément, figure sous la couverture du Time Magazine un homme qui sourit. Il est joufflu, il porte une belle veste, une rose dans la poche et regarde l'objectif droit dans les yeux. Cet homme, c'est Al Capone, le parrain de Chicago qui règne sur la Prohibition. C'est un gangster, il en est même le roi, tout le monde le sait, mais c'est aussi une vedette. La preuve que dans ce monde, ce ne sont pas les travailleurs honnêtes qui ont la plus belle vie. L'ont-ils vu, Bonnie Parker et Clyde Barrows, numéro 3 du Time ? S'ils l'ont vu, il leur a plu. Mais pour ça, ils ont dû sortir de West Dallas. C'est là qu'ils habitaient, c'est là que Bonnie s'est d'abord imaginé un avenir.
Bonnie disait à ceux qui l'embêtaient, « S'il vous plaît, foutez-moi la paix. Quand vous me verrez sous les projecteurs, vous vous excuserez de m'avoir mal parlé. » Elle ne savait pas, et personne ne pouvait s'en douter, qu'elle resterait dans l'histoire comme la petite fille la plus forte que le monde ait jamais portée.
Bonnie Parker aime la poésie. Ses quelques vers sur son enfance, c'est encore elle qui les a écrits. Née en 1910, elle arrive à West Dallas à 4 ans avec sa mère et les deux autres enfants de la fratrie après la mort du père. C'est une petite fille blonde, plutôt bonne élève. Elle écrit très tôt des poèmes, gagne même des concours de récitation. Et dans ses années d'après-guerre où Hollywood est clos, elle rêve d'une carrière d'actrice. Ou de chanteuse, ou de danseuse, qu'importe. Pourvu qu'elle soit sur scène et qu'on la regarde. Mais les rêves de Bonnie Parker s'évaporent tristement. À 16 ans, elle qui avait de très bons résultats, arrête l'école et se marie à un garçon de son âge, un certain Roy, un petit truand, un type pas net qui part des semaines entières sans lui donner de nouvelles. Bonnie se sentait seule, écrit-elle, et horriblement triste, en attendant son mari, qu'elle croyait être le bon, sans savoir quoi faire. Bonnie parle d'elle à la troisième personne, déjà un peu mégalo. Adolescente, elle travaille dans un café pour une poignée de dollars. Elle s'ennuie profondément. Alors, elle va au cinéma à la recherche d'histoires. Et des histoires, cette région n'en manque pas. Elle n'est pas loin l'époque de Desperado, de Jesse James, de Billy the Kid et des spectacles de Buffalo Bill. Lucky Luke sort de ce corps. Et puis, elle n'est pas vieille, finalement, la ruée vers l'or. Et elles sont encore dans les mémoires, les guerres contre les Indiens. Geronimo n'est mort que 15 ans plus tôt. Il n'y a pas si longtemps, cette région des States était une terre d'histoire grandiose. Mais aujourd'hui, écrit Bonnie, c'est lugubre, on s'ennuie à mourir, il n'y a rien à faire. Si seulement il pouvait arriver quelque chose. Maintenant, comment a-t-elle rencontré Clyde Barrow? On ne sait pas. Certains disent qu'ils se sont croisés dans la rue, d'autres qu'ils se sont rencontrés à une fête. En tout cas, le moment se situe au début de 1930. Et Bonnie Parker, 19 ans, à la recherche d'aventures, entre par hasard dans la carrière criminelle de Clyde Barrow. Ralph Fultz, un complice de Clyde, raconte.
Clyde et moi, on a commencé à aller voir dans les prisons. On recrutait des ex-tolars. Dans le gang, il y avait Clyde, moi et Raymond Hampton, qui venait de sortir de prison. Et Bonnie Parker y est entrée par accident.
Clyde Champion Barrow, de son nom complet, n'a pas le même profil que Bonnie. Il est arrivé un peu plus tard à West Dallas, à 12 ans. Avant, il vivait à la campagne. Son père avait un champ de coton qui faisait vivre laborieusement ses 7 enfants et son épouse. Et la vie est devenue encore plus dure quand le champ a été ravagé par les tempêtes de poussière et par les insectes. Les Barrow se sont réfugiés dans le seul endroit qui ne les a pas rejetés, les marécages de West Dallas. Alors, à quoi ressemble-t-il ce Clyde? Des yeux de serpent et une tête de tueur, dira le New York Times. Mais ce n'est pas vrai, non. Non, c'est un jeune homme au physique plutôt avenant d'ailleurs, qu'on imaginerait aisément avec une salopette et un chapeau de paille genre planteur du Sud, mais qui prend grand soin de masquer ses origines paysannes. Il se coiffe, porte des chapeaux et des vestes à la mode. L'avis de recherche édité par le FBI quelques années plus tard nous renseigne un peu plus. Taille moyenne, cheveux bruns, frisés, peut-être teints en noir, yeux noisettes, silhouette mince, une encre de l'US Navy tatouée sur le bras droit, une poitrine de femme sur le bras gauche. Cet homme est très dangereux. Signé John Edgar Hoover, chef du FBI, un autre danger public, à sa manière. Clyde, lui, n'a pas le beau petit parcours scolaire de Bonnie. Non, l'école, il n'y est pas allé beaucoup. Mais il a une passion, la bagnole. C'est d'ailleurs pour un vol de voiture qu'il apparaît pour la première fois dans les dossiers de la police en 1926, à 17 ans. Avec son frère, Buck, il entre tôt dans la carrière et par le bas de l'échelle. Des vols de poules pour se nourrir. Puis des vols de voiture pour les revendre et manger autre chose que des poulets volés. Sa sœur Marie se souvient.
La famille était fauchée et les temps étaient durs. Ils n'avaient pas un sou en poche. Je crois que très tôt, ils voulaient des choses qu'ils ne pouvaient pas avoir. Le meilleur moyen, c'était de les voler. Après, Clyde a eu des ennuis. Et à chaque fois qu'il arrivait quelque chose, on lui mettait sur le dos. Il l'arrêtait et il pensait tout le temps que c'était Clyde ou Buck qui avait fait le coup. Je savais que c'était faux. J'aimais mes deux frères et je ne crois pas qu'ils aient fait la moitié de ce dont les journaux les ont accusés.
Les poules, les voitures, puis les braquages à main armée. Clyde et son frère poursuivent leur parcours du crime. Ils sont recherchés par la police en 1930, quand Clyde rencontre Bonnie. Il semble que ce soit un coup de foudre. Enfin, de la part de Bonnie. Clyde, lui, s'exprime peu. On le sait parce que peu de temps après leur rencontre, il est arrêté et envoyé au pénitencier pour 2 ans, et que nous avons encore quelques lettres que Bonnie lui envoie. pour elle, qui se voyait déjà partir pour une vie d'aventure avec un gang, un vrai. C'est la désillusion, parce qu'elle se retrouve seule, à nouveau. Mais elle a trouvé celui qui lui fera vivre une histoire palpitante, et elle ne l'abandonnera pas, ni lui, ni la vie qu'il lui promet.
Chérie, je ne trouve rien qui vaille la peine, sinon que je t'aime plus que ma propre vie, et que je deviens à moitié folle. Mon amour, si tu restes encore 2 semaines de plus en prison, je vais sombrer dans la folie. La nuit dernière, j'ai rêvé que tu en sortais, et que moi j'y entrais. Mon chéri, j'aimerais pouvoir passer ces longues journées à ta place. Mais si j'étais en prison, toi, tu m'oublierais sans doute. Ce message est comme tout le reste, une espèce de mélancolie. Mais mon bien-aimé, je suis tellement triste, tellement déprimée et malheureuse. Ne t'attends pas à ce que je t'écrive des lettres gaies, à ce que je me sente heureuse, car ce qui se passe, chérie, me coûte encore davantage à moi qu'à toi.
11 mars 1930, Texas. Bonnie se présente au parloir de la prison de Waco. Sous ses vêtements, elle a planqué un Colt, calibre 38, blotti entre ses seins. C'est comme ça que Clyde s'évade. Et c'est de cette façon que Bonnie devient, aux yeux de la loi, complice du fuyard. Introduire une arme dans une prison, puis attendre, exciter que son petit ami s'évade pour la retrouver, c'est aussi peut-être à ce moment précis que Bonnie réalise ses rêves d'enfant. Parce que sa vie devient un film. Mais Bonnie et Clyde ne sont pas des truands professionnels. Et ils sont désorganisés, ne vivent que pour la fièvre du moment. Ils n'ont absolument pas prévu la cavale de Clyde, qui ne dure qu'une semaine d'ailleurs. Il est rattrapé et renvoyé en prison, mais cette fois pour 14 ans, et dans la pire du Texas, la prison d'Eastham. Heures de travail par jour à cultiver la terre en plein désert. Des geôliers sadiques qui punissent à coups de fouet de bat de baseball. Il leur arrive aussi de les piétiner à cheval. C'est une prison qui tue. Clyde y est violé à plusieurs reprises par un co-détenu et il massacre son agresseur à coups de barre de fer. Quelques années plus tôt, il était un voleur de poules. Dans la prison d'Eastham, il devient assassin. Bonnie, elle, sait qu'il faut lui obtenir une remise de peine. Alors elle lui écrit des lettres destinées à le faire passer pour un détenu à la recherche du repentir.
Il te croit méprisable. Moi, je sais que ce n'est pas vrai. Et je saurai être celle qui te prouvera que ce monde extérieur est chic. Nous sommes jeunes et nous sommes capables d'être heureux, comme les autres garçons et filles, au lieu d'être là où nous en sommes.
Est-ce seulement une stratégie, cette lettre de Bonnie ? Ne montre-t-elle pas également qu'elle n'est pas comme lui, qu'elle a évolué, elle, dans un monde respectable, et qu'elle pourrait y retourner? Sa mère est inquiète de sa relation avec Clyde Barrow. « Je voulais simplement rester un bout de temps avec lui », écrit Bonnie, « histoire de resquiller quelques mois de bonheur. Ensuite, j'allais le quitter pour rentrer sagement à la maison. » Ce qu'elle ne fera jamais. De son côté, Clyde n'a pas pour projet de rentrer dans le droit chemin, mais la ferme intention de sortir de cet enfer. Désespéré, il se coupe 2 orteils à la hache pour être transféré à l'hôpital. Raté. La prison d'Eastham n'est pas du genre à s'émouvoir d'une blessure comme ça. D'autres ont fait bien pire. Alors, un pansement, un peu d'alcool et on n'en parle plus. Et puis que valent les doigts de pied d'un repris de justice comme celui-là? Mais Clyde sort tout de même. Oui, grâce à sa mère. Elle a harcelé le gouverneur du Texas. Peut-être d'ailleurs a-t-elle fait plus que ça. Clyde Barrow sort d'Eastham, mutilé, le 2 février 1932. Clyde a boité jusqu'à la porte de Bonnie, écrit Bonnie dans un poème. Bonnie sauta de joie. Quand elle le vit, elle le prit entre ses bras. Et à ce moment-là, l'enfer leur ouvrit les siens. I hear the train a-coming. It's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die.
hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me.
Aujourd'hui, Bonnie and Clyde.
France Inter, affaires sensibles.
C'est à la sortie de prison de Clyde que le gang Barrow apparaît dans les journaux. Oui, gang, car il n'y a pas qu'elle et lui. Il y en aura d'autres, qui entreront, qui sortiront. Il y en a un qui mérite d'être cité. Il s'appelle Redmond Hamilton. C'est un amant de Bonnie et il devient aussi l'amant de Clyde. Cette chevauchée criminelle est à la fois libertaire et libertine. Bonnie a des amants, Clyde couche avec Bonnie, avec des hommes, et à plusieurs reprises, il serait plus juste de parler de Raymond and Clyde que de Bonnie and Clyde. Surtout quand les deux hommes disparaissent pendant près de 100 jours sans donner aucune nouvelle à Bonnie. Le Young Barrow braque des épiceries, des stations d'essence, des teinturiers. Mais ce sont de très mauvais bandits. Ils ne savent pas le matin ce qu'ils vont cambrioler l'après-midi. Et ils ne s'échappent que parce qu'ils ont des armes et que Clyde est un très bon pilote. Sa voiture préférée, c'est la Ford V8. Il écrit même à Henry Ford. « Ta bagnole est magnifique. Voilà 3 semaines que j'en conduis une. » Que dirais-tu de ce slogan ? « Avec une Ford, vous sèmerez n'importe quelle caisse. » Le gang Barrow est une provocation permanente. L'équipé ressemble à celle d'adolescents perdus, à moitié fous. Mais c'est aussi une bande de tueurs qui assassine pour rien. Le vendeur d'un magasin de musique qui résiste, un boucher qui ne veut pas donner sa caisse, tout cela pour rarement plus de 50 ou 60 dollars. Puis il s'attaque à des policiers qui s'approchent d'un peu trop près. Bonnie, elle ne fait rien. Elle attend dans la voiture que ses compères reviennent. C'est Clyde qui tue. Buddy Barrow, son neveu, raconte.
Sa sœur lui avait demandé ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Il lui avait répondu qu'il en était malade à chaque fois. Il avait ajouté « Ils sont armés et moi aussi. Ils essaient de me descendre et moi, je veux juste m'enfuir. » Il a ajouté « Je me sens mal. J'ai la nausée en pensant aux gens dont j'ai pris la vie. Mais c'était eux ou moi. »
Faut-il croire ce que dit Buddy Barrow ? Parce que, franchement, face au boucher ou au vendeur du magasin de musique, Clyde ne risque pas sa peau. Il l'étudie de sang-froid. Il sort même prendre du plaisir. Il est recherché à la fin de l'aventure pour 13 meurtres. À la fin de l'année 1932, le gang Barrow est connu de toute la région dans laquelle il sévit. Texas, Louisiane, Oklahoma, Arkansas, Missouri. Après 9 mois de ravage, ils sont poursuivis par les polices de ces États et par le jeune Bureau of Investigation, futur FBI. Le gang Barrow fascine la presse, qui s'intéresse particulièrement à cette jeune femme blonde, cette Bonnie qui intrigue. Toujours bien habillée, coquette, maquillée. Il est vrai qu'elle fait très attention à sa présentation. Il y a toujours une trousse de toilette sur la banquette arrière, entre les mitraillettes. Elle se fait belle, rouge à lèvres éclatant, mascara, talons hauts et un peu de parfum. Elle monte au braquage comme une actrice monte sur scène. Et les États-Unis tout entiers qui suivent le feuilleton de l'insaisissable gang Barrow se réveillent un matin d'avril 1933 avec dans les journaux des photos exceptionnelles. C'est que, quelques jours plus tôt, le gang a manqué de se faire arrêter. Ou il s'en a fallu peu pour qu'il s'échappe. Et derrière eux, il laisse de nombreuses affaires, dont des armes et des pellicules de photos qu'il venait de prendre. Alors les policiers les font développer et les bandits apparaissent dans leur intimité. Bonnie dans les bras de Clyde devant une belle voiture, Bonnie qui fait semblant de le braquer en pointant sur lui un fusil à canoncier, et Bonnie encore, le pied sur le pare-choc, la main sur la hanche, tenant un revolver, l'air faussement grave, un cigare à la bouche. C'est ce qu'elle devient aux yeux des Américains, la femme au cigare. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, le cigare choque plus que le fusil. Parce que quand on est une femme, on ne fume pas. Et de cette petite transgression, on en vient à imaginer de prostituer sans morale. Ça va vite chez les braves gens. Mais Bonnie dans Time Magazine, et c'est le principal. 3 ans après Al Capone, c'est son tour. Elle est devenue une célébrité. On la regarde. Et ce qui marque sur ces images, c'est que Clyde, lui, ne joue pas. Bon, bien sûr, ça lui fait plaisir de prendre des photos, mais sans plus. Pour Bonnie, c'est autre chose. Elle pose, c'est une comédienne. Elle vit dans un film qu'elle écrit en même temps qu'il se déroule. Dans leur planque, la police retrouve aussi un poème. Celui-ci s'appelle « L'histoire de Sal la suicidaire ». C'est son histoire, celle d'une jeune fille tombée folle amoureuse d'un bandit. « On m'a appris les lois souterraines », écrit-elle, « et Jack, comprendre Clyde, était un dieu pour moi. » Mais c'est un poème qui se finit mal, parce que Bonnie sait parfaitement que le bout du chemin se rapproche et qu'il ne lui réserve que la mort. C'est une aventure suicidaire. Mais en attendant, le gang Barrow survit. Buddy Barrow, le neveu de Clyde, raconte.
Beaucoup de gens pensent que c'était romantique, mais non. À mon avis, vivre dans sa voiture, se baigner dans des rivières et manger dans une boîte de sardines ne fait pas rêver. Leur unique quête était de rester en vie, de survivre, rien d'autre.
Et voir des fugitifs devenir des célébrités, ce n'est pas du goût de la police. Et alors que la presse s'emballe, les forces de l'ordre s'organisent. En 1933, ce sont plus de 12 États avec le bureau d'investigation qui sont aux trousses du gang Barrow. Les arrêtés, morts ou vifs, est leur priorité. Et ils sont aidés par tout le monde. On voit passer une voiture chelou, on aperçoit au loin des silhouettes qui leur ressemblent. Au moindre soupçon, on appelle le shérif. Parce que Bonnie et Clyde sont détestés. Tout le contraire de leur contemporain John Dillinger, braqueur de banque, qu'on compare à Robin des Bois. L'un de ses complices, arrêté en cette même année 33, fait grand effet quand il déclare « Pourquoi aurais-je des remords? J'ai volé les banquiers qui eux-mêmes volaient leurs clients. » Très Robin Hood. Alors que Bonnie and Clyde, c'est plutôt le fou de la gâchette et la prostituée. Traqués, ils n'ont pas une journée de repos. Et arrivé à ce stade, la cavale n'est plus excitante. Non, elle est épuisante. Il se trouve que dans ces conditions, l'un de leurs complices, un jeune de 16 ans nommé William Daniel Jones, veut quitter le navire. Clyde l'en empêche en l'attachant la nuit à des troncs d'arbres ou à la voiture. Peine perdue, il arrive tout de même à s'échapper. Il tombe aux mains de la police qui, fier de son coup, le filme accusant Bonnie et Clyde de nouveaux meurtres.
Je suis inculpé avec Clyde et Bonnie pour le meurtre du shérif Malcolm Davis. J'ai été menacé de mort par Clyde Barrow et je l'ai vu tuer 5 hommes. Clyde Barrow n'a jamais semblé éprouver un quelconque remords. Il ne pense qu'à lui. C'est pour ça que j'ai essayé de m'échapper. Il aurait pu me tuer, comme n'importe qui d'autre.
La police a compris que Bonnie et Clyde lisent la presse. Alors elle tente de les déstabiliser, en les accusant de crimes qu'ils n'ont pas commis, en traitant Clyde de lâche, parce que c'est lui qu'ils recherchent. Bonnie, après tout, n'a tué personne. Elle pourrait trouver une porte de sortie. Et c'est bien ce que sa mère la supplie de faire. Et c'est aussi ce que Clyde lui propose. Bien. Mais pourquoi faire? Pour aller en prison, puis retomber dans l'ennui? Pour écrire des poèmes sur sa vie? Non, c'est pas comme ça qu'on devient une légende. Bonnie le sait. C'est en vivant l'aventure et en mourant de façon grandiose qu'on accède un peu à l'immortalité. « De toute façon, écrit-elle à sa mère, nous sommes fichus, tu le sais bien, et je le sais bien, et tout le Texas le sait. » C'est au début de l'année 1934, sa 25e et dernière de vie, qu'elle écrit le poème intitulé « La fin de la piste ». Vous en connaissez les premiers vers? Vous avez lu l'histoire de Jesse James, comment il vécut, comment il est mort? Si l'envie d'en lire d'autres vous prend encore, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Voici un bout de la suite.
Alors voilà, Bonnie and Clyde, c'est le gang Barrow. Vous avez sûrement tous lu quelque part comment ils pillent, comment ils volent et dans quel état on a retrouvé ceux qui les ont emmerdés. On prétend qu'ils tuent de sang-froid. On les dit aussi sans cœur et sans loi. Mais moi, je le dis et j'en suis fière. Lorsque j'ai connu Clyde autrefois, il était honnête, loyal et droit. Chaque fois qu'ils essaient de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les 3 jours, tac, 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 une mitraillette revient à l'attaque. Croyez pas qu'ils se sentent invincibles. C'est pas la première fois qu'on leur tire dessus. Il y a longtemps qu'ils n'ignorent plus que la mort est le salaire du péché.
Laissez-moi maintenant vous présenter Frank Hammer. Alors lui, c'est pas un poète. Il mesure plus de 2 mètres. C'est un ancien Texas Ranger qui a rendu son arme le jour où une femme est devenue gouverneur du Texas. Et depuis, il se reconvertit en chasseur de primes. Avant Bonnie and Clyde, il a déjà liquidé 53 hors-la-loi. Et il se met en chasse. Il reconstitue les itinéraires du gang Barrow. Et dans sa voiture, vivant comme eux, il les piste. Avec le FBI et les polices locales, il met au point plusieurs embuscades, mais au moins une douzaine d'entre elles échouent. Nous sommes le jour de Pâques 1934, le 1er avril, et en une journée, Bonnie and Clyde montrent toutes leurs contradictions. Clyde a organisé discrètement une petite rencontre avec sa famille et celle de Bonnie, qui tient absolument à offrir quelque chose à sa mère. C'est un petit lapin blanc qu'elle a appelé Sunny Boy et dont elle s'occupe depuis quelques semaines. Elle lui demande d'en prendre grand soin. Et le même jour, cette jeune femme au petit lapin blanc est complice d'un double meurtre. Un témoin décrit la scène.
Dimanche, vers 10h30, j'ai vu une voiture garée là-bas avec un homme et une femme dedans. Il y en avait un de chaque côté. Ils se sont baissés et ont pris leur arme. Ils devaient être à 3 mètres et là, ça a fait... Voici le couple que William Schiffer dit avoir vu. Clyde Barrow et Bonnie Parker. La police fait circuler ces photos des hors-la-loi dans tout le sud-ouest pour les identifier. La fille a au moins 2 revolvers sur elle.
Pour la presse, c'est Bonnie et Clyde qui ont tué ces 2 hommes. En réalité, c'est Clyde et un certain Medvin, leur nouveau complice, un jeune qui n'a pas encore 20 ans. Et Frank Hammer, le chasseur de primes, remonte la piste de ce Medvin. Il comprend qu'il se rend souvent chez son père avec Bonnie et Clyde. Alors, il met sur pied un nouveau piège. Le père Medvin sait pertinemment que son fils est recherché pour meurtre. Alors, quand les policiers lui proposent d'oublier, s'il les aide à arrêter Bonnie et Clyde, il ne réfléchit pas longtemps. Et le plan est simple. Les policiers savent que Bonnie et Clyde doivent se rendre chez le père de Medvin le 23 mai 1934 au matin. Alors, le 23 mai 1934 au matin, ils attendent le couple, bien planqué dans les fourrés au bord de la route. Ce jour-là, à 9h, une Ford V8 fonce sur cette route de Louisiane. Clyde a des lunettes de soleil et conduit en chaussettes. Bonnie, elle, porte un beau chapeau et fume une cigarette. Sur le bord de la route, il y a un camion arrêté. Ils le connaissent, c'est celui du père de Medvin qui, justement, leur fait signe en montrant un pneu crevé. Alors Clyde s'arrête. Mais à quel moment s'aperçoivent-ils qu'il y a des policiers de l'autre côté? Probablement lorsqu'ils entendent les premières balles fusées. Les policiers tirent en effet 177 fois. 50 projectiles atteignent leur cible. Bon, dit Hammer, on a fait le boulot. Bonnie et Clyde sont morts. Un petit film montre la voiture trouée et ses 2 occupants. On y voit Bonnie appuyée sur Clyde et Clyde appuyé sur la portière, en très mauvais état, tous les 2. La Ford V8, les 2 corps à l'intérieur, est ensuite remorquée par un camion qui remonte lentement la route jusqu'à Arcadie, la ville du coin. Un cortège se forme, une habitante se souvient. Elle est alors écolière.
J'ai couru et j'ai regardé Bonnie. J'ai glissé ma tête dans la voiture et je l'ai regardée. Elle était tombée par terre. Je voyais ses cheveux roux et sa robe rouge. Elle était toute petite. Il y avait un magazine sur le plancher, sur lequel tombaient ses cheveux. Puis j'ai fait le tour de la voiture, j'ai glissé ma tête de l'autre côté et j'ai regardé Clyde. Je me souviens juste que sa bouche était ouverte, et je crois que ses yeux aussi. Ça se voyait qu'il était vraiment mort. C'était affreux.
Les deux corps sont entreposés dans une morgue improvisée, en fait un magasin de bricolage. C'est une cohue sinistre. Tout le monde se précipite pour avoir son bout de Bonnie, son morceau de Clyde. Leur arracher leurs vêtements, leur couper une touffe de cheveux. Certains qui se prennent pour des toreros veulent même leur sectionner les oreilles. Bonnie et Clyde sont entrés dans la légende de leur vivant. Et à peine sont-ils morts, on en veut des reliques. C'est le jour de leur enterrement que la presse publie le poème que Bonnie Parker avait envoyé pour les funérailles. En voici les tout derniers vers.
Certains languissent, le cœur brisé. D'autres meurent, épuisés. Mais l'un dans l'autre, pourtant, leur malheur n'est pas grand à côté de celui de Bonnie et de Clyde. Un de ces jours, ils tomberont ensemble. Côte à côte, ils seront enterrés. Sûrement qu'il y en a qui pleureront. Et les flics, eux, se réjouiront. Mais ce sera la mort pour Bonnie et Clyde.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James ? Comment a-t-il vécu ? Comment a-t-il est mort ? Ça vous a plu, hein ? Vous en demandez encore ? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
la seule solution c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Bonnie and Clyde, notre invité Didier Combeau. Bonjour.
Bonjour.
Politologue, spécialiste des États-Unis, auteur entre autres de Police américaine, paru chez Gallimard en 2018. Vous avez écrit également Des Américains, des armes à feu, paru celui-là chez Belin en 2007. Alors pourquoi d'abord dans la myriade de gangsters américains des années 30, nous souvenons-nous aujourd'hui encore de Bonnie and Clyde, parmi les plus célèbres ?
Eh bien, parce que c'est aussi une histoire d'amour. Dans cette cavale à travers les États-Unis, c'est Clyde qui est poursuivi, ça n'est pas Bonnie. Et pourtant, Bonnie reste avec Clyde, alors qu'elle pourrait se mettre en sécurité, puisque ça n'est pas elle qui est recherchée. Et puis, aussi à cause de ce poème que vous avez cité. Pourquoi est-ce qu'on dit Bonnie and Clyde ? On devrait dire Clyde et Bonnie. Et d'ailleurs, à l'époque...
Mais pourquoi on devrait dire Clyde et Bonnie ? Pourquoi le mec avant la femme ?
Parce que c'était lui le truand, c'était pas elle.
Elle suivait, en quelque sorte.
De ce point de vue, si on parle de Bonnie and... À l'époque, on ne parlait pas de Bonnie and Clyde dans les journaux. On parlait du gang Barrow, ou bien on parlait de Clyde Barrow et de sa poule, pour reprendre le terme qui était utilisé à l'époque, le terme mole en anglais. Si on parle de Bonnie and Clyde, eh bien, c'est parce que Bonnie and Clyde est cité dans le poème qui est écrit par Bonnie. Alors, pour des raisons de rime, elle fait rimer avec died, elle fait rimer avec guide, mais aussi parce que c'est elle qui donne l'importance à cette histoire. Sinon, s'il n'y avait pas Bonnie, Clyde, ce serait un petit truand parmi d'autres, bien d'autres dont on n'aurait jamais entendu parler.
Alors, c'est aussi les années 30, un moment important pour les États-Unis. C'est une période où le gouvernement fédéral gagne du pouvoir sur les États et où on assiste à l'avènement de ce qui s'appellera le FBI, mais c'est aussi l'époque d'Al Capone, la prohibition d'un certain mythe américain qui rejoint la réalité parfois violente. Ces deux-là, ils n'arrivent pas n'importe quand.
Oui, on est juste à la fin de la prohibition. La prohibition a été instaurée aux États-Unis en 1920. Et les Américains sont devenus un petit peu une nation de contrevenants, de hors-la-loi, de gens qui ne respectaient pas la loi, parce que beaucoup de gens continuaient à boire, y compris au Congrès, un peu partout, les gens continuaient à boire. Et donc, il y a eu le crime organisé, Al Capone, dont vous avez parlé, et compagnie, qui ont acquis une grande importance et qui étaient relativement bien vus par les Américains, parce que finalement, c'était des entrepreneurs. Certes, ils enfreignaient la loi, mais enfin, c'était une loi que tout le monde enfreignait, et donc ça ne présentait pas un gros problème social. Cela dit, il y avait une telle violence à l'époque, le taux d'homicide a considérablement augmenté au cours des années 30, il est monté à près de 10 pour 100 000, ce qui est autant que plus tard dans les années 70 ou 80, mais c'est un des sommets dans le XXe siècle, qu'il y a quand même eu cette inquiétude vis-à-vis de cette violence. Et le président Hoover, était un petit peu impuissant vis-à-vis de cette violence, parce que les affaires de police aux États-Unis, elles concernent les États et non pas l'État fédéral.
Ouais.
Et en 1932, un nouveau président va être élu, Franklin Delano Roosevelt, qui lui pense que le gouvernement fédéral doit avoir une action sociale forte, on le sait, avec le New Deal, et lui va se mettre à lutter contre le crime. Et puis, il y a trois événements aussi qu'il faudrait citer, qui arrivent un tout petit peu avant la période de Bonnie and Clyde. C'est le massacre de la Saint-Valentin en 1929, règlement de compte entre deux gangs mafieux rivaux, organisés par Al Capone. Et il y a une affaire très très importante dont on a peu entendu parler en France, je crois, c'est l'enlèvement du bébé de l'aviateur Lindbergh en 1932.
Absolument.
Ça va vraiment choquer l'Amérique et il va devenir nécessaire de lutter contre le crime.
Et alors, l'apparition du FBI change la donne pendant la cavale de Bonnie and Clyde, dans l'enquête, la recherche de ces deux-là ?
Oui, parce qu'à partir de cette époque, à partir du moment où Franklin Delano Roosevelt arrive au pouvoir, eh bien, le FBI va être chargé, qui n'est pas encore le FBI, qui est encore le bureau d'investigation, va être chargé de coordonner un petit peu les polices locales. Et là, ça va avoir de l'importance. Et au cours des années passées, le FBI s'est transformé en une police scientifique et en une police très moderne.
Bien, on va parler cinéma dans Didier Kumbo. Dans 3 minutes, on écoute d'abord Zao de Sagazan, la symphonie des éclairs.
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
France Inter. Affaires sensibles.
Didier Kumbo, quand on parle de Bonnie and Clyde, on parle à la fois d'un fait réel, d'un fait police-justice, ou plutôt police-police, parce que la justice n'intervient pas, parce que la police les tue. Mais on parle aussi de musique, hein, Gainsbourg, et on parle de cinéma. Bien sûr, on va écouter un extrait du film Bonnie and Clyde, d'Arthur Penn, une séquence où Bonnie and Clyde s'entraînent au tir sur une vieille maison quand son ancien propriétaire arrive.
C'est là que j'habitais. Mais c'est fini maintenant. La banque l'a acheté. Oui, monsieur, on a dû déménager. Aujourd'hui, la maison leur appartient. C'est écrit en toutes lettres.
Mais c'est monstrueux de traiter les gens comme ça.
C'est bien mon avis, madame. Allez-y, continuez. On était venu jeter un dernier coup d'œil.
Je m'appelle Otis Harris. Lui, c'est David.
Bonjour. Mademoiselle Bonnie Parker.
Mademoiselle...
Et moi, Clyde Barrow.
Monsieur. On est pilleurs de banque.
Bon, désolé pour le doublage, hein, ça fait sortir de l'ambiance, on n'a pas le choix en radio. Votre regard sur ce film déjà?
Mais c'est un film qui a beaucoup participé à la réputation de Bonnie and Clyde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui paraît en 1967. Et 1967, les années 60, c'est une époque de contestation de l'autorité. Bonnie and Clyde représentent cette contestation de l'autorité, en quelque sorte. Et puis, en 1967...
Vous voulez dire que ce sont des personnages un peu pop, un peu à la mode?
Oui,
de pop culture,
voilà, ils sont des personnages de pop culture. Et ce film, il apparaît aussi à un moment où le code de bonne conduite que s'était imposé Hollywood entre en désuétude, en quelque sorte. En 1934, c'est-à-dire l'année où Bonnie and Clyde tombe dans l'embuscade, Hollywood va adopter un code qui s'appelle le code Hays et qui dit que aucun film ne doit être produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs et que la sympathie du spectateur ne doit jamais être pour les criminels, pour les méfaits, pour le mal ou pour le péché. Et ce code Hays, il va être en place entre 1934, 1935 et 1966. Et donc ce film d'Arthur Penn, il arrive à ce moment-là.
Juste après, quoi.
Juste après.
Alors, à cette époque, mais dans la vie réelle, et après la Grande Dépression surtout, est-ce que c'est bien vu de braquer des banques? J'ai l'impression que braquer des banques, c'est plutôt, oui, pas mal vu, quoi. Dès lors qu'il y a un côté Robin des Bois.
Bah oui, parce que les Américains connaissent une période extrêmement difficile. En 1933-1934, un quart de la population active est au chômage. Et les Américains attribuent ces difficultés économiques aux banques, entre autres. Et donc, piller des banques, eh bien, ça n'est pas si mal.
Oui. Alors, deux mois après la mort...
Cela dit, ils ne pillent pas que des banques. Ils pillent aussi des petits commerces.
Oui,
ce ne sont pas du tout des Robin des Bois.
Non, bien sûr. Ils se prennent pour ça, mais c'est...
Oui.
Alors, Dillinger, lui, un peu quand même. Hein. Il est abattu par le FBI deux mois après la mort de Bonnie and Clyde. Qui était-il, ce John Dillinger?
Eh bien, c'est pareil, hein, c'était un petit truand, mais enfin qui avait un physique d'acteur de Hollywood, hein, qui le servait beaucoup, et puis lui aussi s'est fait prendre en photo, en particulier avec le bras sur l'épaule d'un shérif à un certain moment, et c'est quelqu'un qui s'évadait très régulièrement de prison, et une fois il s'est même évadé en utilisant une arme en bois, donc il a ridiculisé l'administration pénitentiaire de cet état.
Et donc il était populaire?
Et donc il était plutôt populaire, effectivement.
Alors on revient au film Bonnie and Clyde, donc 67, réalisé par Arthur Penn, qui en parle lui-même sur France 2 en 1985. On l'écoute.
But we weren't trying to make a film about the real story of Bonnie and Clyde. We were trying to make a story about...
Nous n'avons pas essayé de faire un film sur la véritable histoire de Bonnie and Clyde, mais sur des gens qui sont devenus une sorte de mythe. Et on devait avoir une fin qui ne soit pas juste.
Bang,
ils sont morts. Donc l'idée m'est venue de faire quelque chose un peu comme un ballet, une danse macabre. Et regardez, là, c'est la dernière fois que Bonnie and Clyde se regardent. C'est leur dernier regard.
Danse macabre, oui, on ne peut qu'adhérer à ça.
Oui, il y a une esthétisation de la violence à partir des... et surtout dans les années 60. Hein, les années 60, c'est le moment où la violence commence à exister pour elle-même, en quelque sorte, aux États-Unis. En 1966, il y a un tireur qui va monter dans la tour de l'université du Texas et qui va tirer sur des gens, on ne sait pas pourquoi. Il y a des épisodes comme Charles Manson qui va assassiner...
Sharon Tate et d'autres.
Voilà, et on ne sait pas pourquoi. La violence existe en quelque sorte pour la violence. Alors que avant les années 60, la violence avait toujours une justification progressive.
C'était un moyen,
c'était
pas une fin.
C'était un moyen, et c'était le moyen du progrès, en quelque sorte. À partir des années 60, ça devient un sujet d'esthétique, en quelque sorte.
Et on peut ajouter la violence politique avec l'assassinat de Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy, donnant des États-Unis une image d'un pays véritablement violent. Et c'était le cas à cette époque-là. Ça renvoyait cette image-là.
Ah oui, à la fois dans les années 30 et dans les années 60, des années 60 jusqu'aux années 90, effectivement, les États-Unis sont un pays très violent. Si on prend le taux d'homicide qui est l'indicateur qui est le plus fiable hein, en termes de violence, eh bien, on est monté à 10 pour 100 000, ce qui est énorme. Hein. En France, c'est de l'ordre de 1 pour 100 000, par exemple. Donc, non, les États-Unis sont incontestablement un pays où la violence est relativement tolérée.
Que dire de la figure de Scarface ? Qui a été tellement bien représenté au cinéma également.
Alors oui, alors Scarface, c'est-à-dire Al Capone, eh bien c'est une image de l'entrepreneur américain. Ouais, après tout, c'est le petit gars de Brooklyn qui a, grâce à ses qualités, monté une sorte d'empire. Hein. Il se considère d'ailleurs pas comme un gangster lui-même, il se considère comme un commerçant.
D'ailleurs, il est inquiété, arrêté, je crois, pour fraude fiscale.
Oui, effectivement.
Et non pas pour crime.
Et non pas pour crime, parce qu'évidemment, il y a toujours des intermédiaires hein, pour les crimes, c'était pas lui-même qui les commettait. Et donc, il considère qu'il mène des affaires qui répondent à une demande considérée comme légitime par beaucoup de gens, c'est-à-dire la demande d'alcool. La prohibition, ça a été surtout l'affaire de protestants et de personnes d'origine anglo-saxonne, et de femmes. Les femmes sont très impliquées. Et s'adresser, entre autres, à l'immigration récente du début du XXe siècle, qui venait d'Europe centrale ou qui venait d'Europe du Sud, des juifs ou des catholiques, et qui, eux, étaient... Ou des Irlandais, hein, qui étaient immigrants un peu plus anciens, mais qui ne dédaignaient pas un petit verre de temps en temps, et qui étaient souvent brasseurs, et qui étaient souvent, pour les Irlandais, qui étaient souvent dans la police aussi. Ouais. Ce qui fait que la police n'avait pas toujours l'efficacité qu'il aurait fallu pour faire appliquer les lois de prohibition.
Alors, puisqu'on parle d'Al Capone et d'autres, hein, il y a aussi, c'est non pas une figure, mais cette image mythique de la prison d'Alcatraz à San Francisco. Quelle place ça tient là.
Ah oui, alors cette prison d'Alcatraz où il y avait un gardien pour 3 détenus, alors que le taux était évidemment bien inférieur dans toutes les autres prisons. C'était une prison dont on ne s'évade pas, et effectivement personne ne s'en est jamais évadé, à part deux ou trois personnes, mais on pense qu'ils se sont noyés, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Et une île qui est entourée de courants, avec des eaux qui sont toujours froides, donc une île dont il est très difficile de sortir. Et c'est une prison qui a été inaugurée en tant que prison hein, dans les années 30, qui est le moment, c'est une prison fédérale, et c'est le moment où le gouvernement fédéral commence à lutter contre le crime avec, on l'a dit, la création du FBI par exemple.
Didier Combeau, cette dernière question, on parlait du taux de violence aux États-Unis, il est peut-être lié, certainement lié aussi, je dis bien aussi, au fait qu'on puisse posséder des armes. On en est où dans le débat sur les armes aux États-Unis, à moins qu'il n'y en ait pas ou plus?
Oh, il y en a toujours un, mais on en est toujours au même point. Il est à peu près impossible d'interdire les armes aux États-Unis, et les lois dont on discute sont des lois qui tendraient à limiter un petit peu l'accès aux armes, mais qui seraient loin d'être équivalentes aux lois qui peuvent exister en Europe, par exemple.
Et même les protestations de Joe Biden récemment n'y changent rien. C'est...
Non, d'abord, il y a le deuxième amendement à la Constitution qui protège le droit aux armes. Alors, ce qui est intéressant, puisqu'on parlait des années 30, c'est qu'en 1934, eh bien, le gouvernement fédéral a adopté la première loi qui a permis de mettre hors la loi les armes automatiques.
Bien, merci infiniment, Didier Combeau. Au revoir.
C'est moi.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Bonnie and Clyde, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Jenab Sangaré.